Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité.
On va passer la parole maintenant à Antoine Mabir sur le thème du vent dans l'architecture.
Bonjour, donc je m'appelle Antoine Mabir, je suis associé d'une agence qui s'appelle Mabir H Architecte. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un projet qui est un concours qui est un peu particulier, sur lequel on a travaillé pendant plus d'un an. C'était pas prévu à l'origine, mais on l'a commencé avant le Covid et les élections municipales, et les deux combinés ont fait que le temps du concours s'est allongé. Alors le projet, c'est un projet pour ceux qui connaissent Nantes qui... je vois pas très bien l'écran là, mais on est taxi. Voilà, en fait on est ici, c'est-à-dire qu'il y a la nouvelle école de design qui est là. On a un axe nord-sud qui n'est pas encore débouchant, enfin qui sera ouvert quand les voies SNCF seront complètement démantelées. Et on est aussi le long d'un axe est-ouest, et donc une espèce de point un peu comme ça, central, on va dire, dans la ville. Et donc là, c'était un concours organisé par la Samoa pour faire des logements avec des activités au rez-de-chaussée. Et il y avait différentes thématiques qui étaient données, qui étaient demandées, il était demandé aux équipes de les pousser. Et donc, dans l'équipe qu'on avait formée, il y avait la question de l'élancement et la question de la ventilation naturelle qui nous était proposée. Je zoome un peu. On était aussi un endroit où il y a déjà des objets que la SEMA a renommé foulée architecturale. Donc il y avait un peu cette demande d'un objet un peu singulier. Et donc bon, j'ai mis ces deux images-là puisqu'en fait, à gauche, on a un exemple d'architecture de tour en Colombie de Salmona, enfin qu'un architecte colombien qui a une production qui est assez intéressante, qui exprimait selon nous la verticalité. Et dans l'équipe, on était mandataire de l'équipe, mais dans l'équipe, il y avait un autre architecte qui était un ancien associé de Renzo Piano. Et cet associé a inclus dans l'équipe ce qui était pour nous quelque chose de voilà qui a été très fondateur en fait sur le projet. On avait dans l'équipe Jacques Gandemer. Donc Jacques Gandemer, c'est un ancien directeur du CSTB qui a très grande connaissance de l'aérolique du bâtiment et qui notamment a œuvré au rachat de la soufflerie créée par Gustave Eiffel à Paris. Et qui a largement contribué à la construction de la soufflerie qui existe à Nantes, qui est plus perfectionnée, mais dont on va dire que la soufflerie d'Eiffel est un peu la mère de toutes les autres, si je puis dire. Donc Jacques Gandemer, on a discuté avec lui dès le début du projet, et il nous a fait une espèce de notice, un peu d'aide à la conception, si je puis dire. On a pas mal discuté. Et c'était important puisque c'est pas du tout la même chose que si on avait commencé à développer un projet et qu'après on avait, je sais pas comment dire, amélioré, amendé le projet avec ses remarques. La première chose, en fait, ça a été de se dire si on veut travailler sur, alors en l'occurrence non pas la ventilation naturelle, mais plutôt ce que lui appelle la climatisation naturelle, c'est-à-dire comment on arrive à baisser le ressenti de température par un mouvement et une circulation d'air dans les logements de manière naturelle, sans avoir de recours à la clim. Comment on fait ? Donc je vais passer un petit peu, c'était un peu les schémas préparatoires. Mais la première idée, c'est d'arriver à créer un mouvement d'air. Et donc pour créer un mouvement d'air, il faut créer une dépression. Ça a pris clair, ça ne se poussait pas, ça se tirait. Donc première chose, c'est de créer une dépression. Et on avait toujours aussi cette question, voilà, enfin, c'est important que les sujets soient imbriqués, entremêlés, qu'on n'ait pas un projet qui soit finalement l'expression de la réponse à une succession de problématiques. Donc on était toujours dans cette idée de comment on exprime aussi une verticalité avec un projet qui fait à peu près 50 mètres de haut, qui a une faible emprise au sol. Et donc on a travaillé avec la première chose, c'est de se dire on va fractionner le volume. Ce fractionnement va nous permettre d'exprimer une verticalité, mais il va aussi nous permettre de créer des zones différentes qui vont générer, on va dire, cette dépression. Et après, on va travailler sur la typologie du bâtiment pour savoir faire circuler l'air dans le bâtiment, puisque, comme tout projet, on a aussi des problèmes d'acoustique, des problèmes de sécurité au feu. Donc la question de la circulation n'est pas forcément évidente. Donc on a vu une emprise au sol, on a scindé le projet et puis on a créé des décalages. On a regardé comment ces décalages fonctionnaient par rapport au vent dominant. Bon, sachant qu'on a des vents dominants sud-ouest, essentiellement l'été, ça peut s'inverser nord-est l'hiver. On a déterminé donc des zones. Alors on était sur un projet assez atypique, on a réussi à obtenir une assez grande liberté puisqu'on était... Il y avait 5 équipes sur ce concours. Et chaque équipe d'architectes était associée avec un promoteur. Et on a embarqué un peu le promoteur dans cette histoire-là. Et donc, on a réussi à sortir aussi du T3 de 63 mètres carrés, du T2 de 45 mètres carrés, etc. Et de dénormer aussi un peu la façon de faire les logements, à la fois pour rendre possible la question de la circulation d'air, mais aussi, d'une certaine manière... Ce dont on s'est rendu compte qu'on verra après, c'est que ça pouvait induire d'autres modes d'habiter. Et donc, du coup, d'articuler cette question de la circulation d'air dans le bâtiment et du mode d'habiter. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie centrale, une partie de distribution centrale. Je ne sais pas si on voit la petite main. Mais bon, grosso modo, la grande barrette bleue verticale, là, c'est la circulation centrale. Et de part et d'autre, on a deux plateaux. Chacun de ces plateaux accueille un logement et chacun de ces logements a une loggia et un jardin d'hiver à des angles opposés, donc qui vont nous permettre de faire des entrées et des sorties d'air. Bon, une petite maquette de l'émergence qu'on voit. Alors, je suis désolé, je ne vois pas bien la main, mais bon, au centre de l'image, il y a un objet vertical, ben, c'est le projet. On en a fait une maquette concept un peu. On s'était dit, voilà, on a envie d'exprimer ça, toujours avec la différence un peu des points d'entrée-sortie, sachant qu'on a un fonctionnement différent entre la partie de circulation verticale, qui est un grand volume qui propose un vide sur toute la hauteur de ce volume, alors qu'on va fonctionner de manière horizontale pour les parties logements. Donc on l'a pensé à une structure en se disant, voilà, on crée une espèce de grande colonne vertébrale. On a des plateaux et dans ces plateaux, on peut disposer des typologies de logements différentes en se donnant une certaine liberté d'action à l'intérieur. Bon, là, c'est des petits schémas qui nous montraient aussi ce que cette disposition-là, elle nous permettait, c'est-à-dire de dire le schéma de gauche, on a une très grande multiplicité des vues. Celui du milieu, c'était de se dire que comme on devait assurer une certaine possibilité, perméabilité d'air, enfin, comment dire, de liberté du mouvement de l'air entre le sud-ouest et le nord-est, il fallait qu'on ait une certaine liberté des plateaux. Et du coup, c'est là où on s'est dit, bon, on va penser ces logements, ce qu'on a appelé comme des plateaux habités. C'est-à-dire que bon, on a une référence qui est très forte, qui s'appelle More Than Housing. C'est un projet à Zurich qui a été fait par Duplex Architecton. Alors là, on est carrément à l'échelle de très, très grands appartements où on a qui sont une espèce de colocation. On a des cellules qui regroupent la chambre, des pièces d'eau, etc. Et puis, on a des interstices dans lesquels se déroulent les espaces de vie. Là, à plus petite échelle, c'est un peu ce qu'on a ramené entre les pièces intimes et les pièces d'eau. Et en se disant qu'après, on allait, comment dire, ces volumes allaient habiter des plateaux. Alors, je reviendrai peut-être plus là-dessus. Ça, c'est les premiers dessins que j'avais fait pour un peu exprimer ça et qu'on retrouve un peu là. C'est-à-dire que les parties en orangé, en fait, sont les zones qui peuvent être plus fermées. Et puis les zones jaunes, je ne sais pas si vous les voyez jaunes là, mais... sont les espaces d'entre-deux qui vont définir des espaces de vie, avec aussi cette idée que comme on a le décalage des volumes, on a une multiplicité d'orientations avec des possibilités selon les saisons de vivre plutôt dans la partie sud-ouest ou plutôt dans la partie nord-est. Et donc ça, on l'a traduit dans des plans. qu'on voit là. Donc, on a profité, on va dire, de cette capacité qu'on avait à, comme je disais, à pas être dans les surfaces assez complexes qui sont souvent imposées dans une histoire de la surface du logement qui sont de plus en plus petites. Et puis, on a retravaillé, donc, parce que il y a le principe, mais le travail avec Jacques Gandemer, il a été continu, d'identifier, en fait, à chaque fois, où étaient les zones dans lesquelles on avait des entrées d'air, comment on faisait les entrées d'air, de calculer aussi les débits, puisque, en gros, sur un dispositif comme celui-là, on peut baisser la température ressentie de 4 à 5 degrés. Mais l'enjeu, c'est que ça soit quelque chose qui soit confortable, c'est qu'on ne soit pas dans le courant d'air. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle entrée et sortie, mais aussi les sections à l'intérieur du logement pour assurer une vitesse de circulation d'air qui permette ce confort. Voilà, on voit encore des. On a fait des tonnes de maquettes, des tonnes de dessins, des tonnes de tout ce qu'on veut. Donc on a testé beaucoup de choses comme ça. Donc là, je pense que les maquettes, elles expriment aussi un peu ce principe-là. Un principe qui existe en plan et qu'ensuite, une fois qu'il a été mis au point, alors là, normalement, c'est censé démarrer. On est allé le tester, c'est-à-dire que on est allé à la soufflerie Eiffel et on a testé le. Bon, le donc du coup, on est dans la soufflerie. C'est une maquette qui est faite spécifiquement pour ça, c'est-à-dire que alors j'ai peut-être juste arrêté pour expliquer deux trois choses. Donc la soufflerie, on est. Si un jour vous avez l'occasion d'aller la voir, c'est vraiment génial. Enfin voilà, moi j'ai découvert. Il y a une histoire, la soufflerie, en podcast sur France Culture, où Jacques Gandemer explique tout ça, etc. Bon, bref. Et j'ai découvert que Eiffel était un peu le père de l'aérolique dans le bâtiment. Et donc, on a un plateau, on est au cœur, en fait, de la soufflerie. On a un plateau qui pivote, qui permet de tester différentes orientations par rapport au sens du vent. Et on a une maquette qui est faite spécifiquement pour l'essai en soufflerie, c'est-à-dire que on a ici l'équivalent donc d'un logement, puisque en fait on n'a pas besoin de maqueter tous les logements. On va se retrouver dans des situations à peu près analogues, sachant qu'évidemment il ne se passe pas tout à fait la même chose dans la partie basse que dans la partie haute. Mais voilà, en tout cas à ce stade-là d'expérimentation, un niveau suffit. Et puis on a une entrée basse et une sortie haute pour tester la colonne centrale, qui elle du coup marche différemment. Puisqu'on est sur une vraie colonne verticale. Et donc on a un opérateur avec une buse qui envoie de la fumée. Il y a un mouvement d'air qui est créé du coup dans la soufflerie, qui correspond donc à une orientation. Et il y a une vitesse de l'air qui permet aussi de tester différentes vitesses de vent. Le but à ce stade-là, c'est de vérifier que les écoulements d'air se passent comme ça avait été imaginé. Bon, on n'a pas... J'allais dire qu'avec l'expérience de Jacques Gandemer, il n'y a pas eu trop de surprises, mais en tout cas, ça nous a permis de vérifier que toutes les hypothèses des études ont été respectées. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous passer, mais là, on voit vraiment l'opérateur, sa perche, la fumée. Donc on entre, parce qu'on a vérifié. On a vérifié, on va dire, le sens été, le sens hiver, c'est-à-dire la réversibilité en fonction des saisons, avec donc l'entrée sud-ouest, entrée nord-est. Et puis la circulation par la colonne verticale avec la sortie des fumées, pour préciser, par exemple, n'est pas modélisée dans la circulation verticale. On avait des ascenseurs. Une proposition de Jacques était qu'on mette des ailettes aux cabines d'ascenseurs pour qu'elles agissent comme des touilleurs d'air, en fait, quand on montait, on descendait de l'ascenseur. Bon, je vais pas passer tout le film. Oui, j'ai mis ça c'est les, c'est les documents d'échange de travail. C'est-à-dire que nous, on fournissait nos fonds de plan à Jacques. Jacques nous renvoyait en fait des documents. Alors quand je dis que c'est quelque chose qui se passe en trois dimensions, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'écoulement de l'air en plan, mais il y a aussi des zones de transfert qui se font en partie haute de certains volumes. Et donc ça nécessite aussi de travailler avec une certaine hauteur sous plafond qui nous permet d'avoir un peu cette espèce de double registre de hauteur dans les logements. Et d'anticiper, de faire des scénarios d'ameublement pour qu'évidemment tout ce qui est prévu de base ne se retrouve pas bouché en fait par la suite. Alors on n'a pas gagné le concours, on est arrivé deuxième pour la petite histoire, et finalement je me dis avec rétrospectivement je suis content qu'on n'ait pas gagné parce qu'en fait le projet a été abandonné, enfin ça ne se fera pas. L'ascenseur émotionnel a été encore plus fort. Mais Jacques avait l'ambition en tout cas de faire presque un mode d'emploi d'ameublement. Alors on s'est dit ça peut être un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire le côté dictatorial de vous n'avez pas le droit de faire ça ou ça. Donc on s'est dit bon, l'enjeu c'est que nous on l'intègre en fait dans la conception architecturale pour notamment prévoir, il y avait des espaces de cellules intérieures, il y avait beaucoup de rangements, enfin voilà, que ça soit qu'on se retrouve pas dans une solution où finalement au premier meuble posé ça ne fonctionne plus, il fallait retrouver des surfaces des linéaires libres où on n'est pas de contraintes de ce type là. Donc là, après, avec des repérages, avec sur les menuiseries, des natures d'entrée-sortie, qui sont détaillées au fur et à mesure, puisque tout à l'heure, on voyait un plan qui était au début des études. Ça, c'est un plan qui est aux deux tiers des études, à peu près, où on a une légende avec un peu plus précisément, en fait, les éléments de menuiserie qui nous permettent de faire des contrôles d'entrée-sortie. On a profité de son expérience, mais on a contacté aussi des fabricants, puisque sur les entrées-sorties, on en a qui sont dans des parties pleines, mais d'autres dans des parties vitrées. Donc comment on gère la thermique, comment on gère l'acoustique. Donc c'est des problèmes qui sont posés, qu'on a eu le temps d'étudier dans le temps du concours.
Antoine, il va falloir conclure.
Et donc voilà, bon, quelques images pour voir un peu le résultat dans l'architecture avec toutes ces zones entrées d'air, voilà, ce que ça génère en façade, les lancements des deux volumes et la vue côté est, voilà.
Merci. Alors, y a-t-il des questions ?
Oui. J'ai plusieurs questions, mais je vais faire court. Ah oui, je me représente. Alors, Théo Marchal. Peut-être la première, très rapide, puis je vais essayer de faire le lien avec la deuxième. C'est vous nous avez présenté des simulations analogiques et pas du tout de simulations numériques. Et du coup, je me posais la question de pourquoi est-ce que c'est juste un choix méthodologique ou est-ce qu'il y a des difficultés à utiliser la simulation numérique en aérolique? Et ça fait le lien avec ma deuxième question, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de résonance avec les problématiques sur lesquelles on est confronté en acoustique, dans le son, dans l'espace. Notamment, vous avez parlé du fait de la difficulté d'intégrer ça très tôt dans la conception, qui était un choix là. Et on retrouve ces problématiques-là avec les phénomènes sonores. Et il y a aussi autre chose, alors c'est peut-être ce lien numérique-analogique, mais on a du mal à retrouver la posture. Avec la simulation numérique dans le sonore, on a du mal à retrouver la posture d'écoute, qu'on a en situation in situ. Et je me posais la question si avec l'aérolique c'est le même problème de retrouver justement cette posture de la ventilation qui en fait est difficile à simuler en numérique. Et du coup, ça peut-être une ouverture ou voilà, enfin ça fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a possibilité de faire des tests à l'échelle 1 dans ces souffleries? Aussi pour tester avec le corps, quoi. Voilà. Ça fait peut-être beaucoup de choses, c'est un peu fou.
Je serais peut-être pas le plus à même. Enfin, Jacques Andemer répondrait mieux à cette question-là. Par contre, je sais qu'il évacuerait l'analogique. Enfin, il le sait. Il les maîtrise. Je ne sais pas s'il les maîtrise parfaitement, mais au sein de travaux qu'il a fait dans le CSTBF sur les nombreux projets qu'il a pu faire d'aéroports, etc. Enfin, des très grands trucs. Il y a d'autres outils, mais je vais répéter ce qu'il nous a expliqué, hein, puisque moi on l'a beaucoup suivi là-dessus. C'est que pour lui, le premier test, c'est à travers la maquette, c'est physique, c'est comme on le voyait là sur le petit film que je montrais. On avait déjà imaginé, si on gagnait, c'est de faire des tests plus précis, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire ici, ce qu'on peut faire à Nantes. Ce sont des tests avec des maquettes équipées de capteurs qui peuvent du coup donner des mesures beaucoup plus précises. Après, ce sont des coûts d'essai qui sont beaucoup plus importants, voilà, qui n'étaient pas raisonnables d'engager en fait au niveau du concours. Et pour les images que j'ai vues, parce que j'ai pas eu l'occasion de visiter la soufflerie de Nantes, On peut faire des tests alors à échelle 1, comme sur des véhicules, enfin voilà, sur des morceaux, oui, il y a ça. Quand on cherche, il y a des vidéos où on voit ça. Il y a même une petite vidéo assez marrante que les gens du CSTB à Nantes ont faite pour montrer c'est quoi la vitesse du vent. C'est-à-dire que voilà, il y en a un qui lit le journal, il y en a un qui est assis sur une chaise, un autre qui a un parapluie. Et puis on voit, voilà, quand un vent fait 30 km/h, c'est ça, 50, 60. Et on voit à la fin, ils ont même presque du mal à tenir debout. Donc. Il y a ces possibilités-là. Après, je ne connais pas la simulation numérique. Je sais que Jacques disait qu'on peut la faire une fois qu'on a fait, en fait tous ces tests avec en maquette qui sont en fait extrêmement parlants et par approche successive. C'est-à-dire qu'on voit bien... Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est on a fait aussi beaucoup de dessins à la main, on a fait des perces, mais on a fait beaucoup... on a fait beaucoup de dessins par ordi, on a fait des perces, des trucs comme ça, mais on a aussi beaucoup recherché par le dessin, par le croquis, par les aquarelles, et je trouvais intéressant de voir que finalement, il y avait un peu une analogie de progressivité aussi dans ce travail-là, dont on pourrait dire qu'en fait, c'est un travail scientifique, qui pourrait être, comment dire, à chaque fois quantifié, calculé, etc. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait ce travail d'approche beaucoup plus même sensible, en fait, même dans ce travail-là. Alors, après, évidemment, avec quelqu'un qui a cette expérience-là, je pense que lui, ses outils lui parlent immédiatement. Et puis, il a été élevé, entre guillemets, avec ces outils-là. Je le vois dans le travail tous les jours avec les ingénieurs structures, par exemple. Les vieux ingénieurs structure savent nous refaire une note de calcul à la main sur un coin de table, là où un plus jeune va avoir besoin de se remettre derrière son ordi, de tout modéliser pour nous sortir quelque chose. Si on le transpose à la question de l'aérolique, mon sentiment était le même. Je ne sais plus si j'ai répondu aux deux questions. Mais...
oui, enfin non, j'en ai plus qu'une du coup, mais qui était... Sylvain Guitard, pardon. Qui était de savoir, est-ce que... par rapport à ce que ça a apporté, en tout cas jusque dans des phases d'études, cette réflexion autour de la ventilation naturelle, est-ce que ça vous a donné envie de reproduire ça dans de futurs bâtiments ?
Ouais.
Alors, et par rapport à la démarche jusqu'en études, en tout cas, est-ce que vous referiez de la même manière, ou avec autant de maquettes, etc., ou est-ce que vous avez des...
Bon, alors les maquettes, on adore ça, on en fait plein. Donc ça, de toute façon, à la base, ça s'inscrit dans notre travail. Et on pense que ça montre des choses que les autres choses ne montrent pas. Après, c'est pas un médium contre l'autre, c'est juste une question de complément. Sur la question de la ventilation, c'est un thème qui nous intéresse puisque on a exploré la double ventilation naturelle, par exemple. Il y a des gens à Rosny-sous-Bois qui, je ne sais pas si vous connaissez les projets des écoles de Rosny-sous-Bois qui sont faites en paille porteuse, c'est un contexte de projet très particulier, puisqu'en fait, c'est une maîtrise d'œuvre en régie. Et donc, on voulait explorer ces questions-là dans un projet. On n'a pas réussi à les amener jusqu'au bout. Voilà, on n'a pas été suivi par la maîtrise d'ouvrage, pour le dire clairement. Mais même, on n'avait pas été suivi par le bureau d'études, dont on pensait, en fait, qu'il serait capable d'étudier ça. Donc, nous, on a pris sur nos honoraires, on est allé chercher le bureau d'études de Rosny-sous-Bois. Et on a, en tout cas jusqu'à l'APD, on a fait l'entière définition du projet en double ventilation naturelle. On a dû l'abandonner parce que ça générait des surcoûts. Enfin voilà, on arrive à la réalité du. Donc il y a des fois des choses qu'on arrive à faire. Mais si on n'essaye pas, on fait jamais rien. Donc voilà. Donc on avait ça. Et aujourd'hui, on a. Alors c'est un peu mieux connu, mais malgré tout, ça demande quand même un peu d'essai. Aujourd'hui, et ça, on va le réaliser. On fait à Orvault une école avec en ventilation simple flux naturel. Donc c'est un thème un peu transversal qu'aujourd'hui... c'est un peu pour répondre à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a entrepris une démarche aussi de valorisation au titre du crédit impôt recherche sur ces questions-là. Et on réfléchit au fait d'intégrer quelqu'un... peut-être un doctorant en contractif, voilà, sur un peu travailler des choses de manière un peu transversale. La difficulté qu'on a toujours, c'est en fait la temporalité du projet, pas toujours la temporalité de l'expérimentation. Ou alors ce qu'on essaye sur un projet, qu'on n'arrive pas à faire sur un projet, va nous aider à le faire sur le suivant. Mais des fois, c'est extrêmement douloureux. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, J'aimerais bien qu'on arrive justement à structurer ça à l'agence pour pouvoir avoir un premier... Enfin, arriver à avoir quelqu'un qui est en dehors du temps du projet et qui arrive justement à creuser des choses et après qu'on puisse les réinjecter, mais sereinement dans le projet, pas comme on l'a vécu quelquefois, ou en partant un peu en se disant « bon voilà, parce que par nature, on a envie d'aller explorer des terrains et que le contexte du projet est des fois un peu compliqué pour ça, quoi. Mais en même temps, on n'a pas envie de l'abandonner. Donc voilà, on a essayé sur une consultation sur des... On est en assistance à maîtrise d'ouvrage. Sur des bureaux à Nathalie de Monzillon, on avait été retenu sur un oral à la Samoa. On avait refait équipe avec Jacques pour la proposition. Alors, on n'est pas du tout allé aussi loin parce que c'était sur notre intention, mais on avait quand même étudié. J'avais trouvé ça intéressant parce qu'ici, on avait une orientation qui était assez favorable, alors que sur le projet en question, l'orientation était pourrie, pour reprendre les mots de Jacques. Et donc, il a fallu qu'on arrive à trouver des moyens un peu différents de faire circuler l'air dans le bâtiment, parce qu'en fait, on avait un bâtiment très en longueur, mais qui était dans le petit côté, entre guillemets, dans le sens des vents dominants. Donc, comment on fait, en fait pour ça, donc ça a généré des solutions et je sais que dans le retour que j'ai eu après, quand on m'a fait le débrief, ça nécessitait d'avoir des cheminées puisqu'en fait, il fallait faire des adductions latérales, mais après, il fallait plutôt travailler sur la verticalité et que c'était quelque chose qui avait gêné, on va dire, dans le... Alors je me dis, voilà, bon, c'est là où je me dis, on a des barrières un peu à franchir, mais que l'esthétique des cheminées... gêné dans le potentiel futur, parce que bon, c'est notre intention, potentiel futur objet architectural. Mais encore une fois, je pense que ce qui m'a moi frappé en fait, dans ce projet-là, c'est que si on n'avait pas eu cette discussion très très tôt, c'est-à-dire avant qu'on dessine, le projet n'aurait pas été le même. Et en fait, moi, c'est ça que je retiens, c'est que si on veut repousser en fait, ces choses-là, il faut qu'on en discute, en fait, avant qu'on ait tiré un trait.
Non, c'est pas une question. C'est juste faire le lien entre pratique et recherche à propos de Jacques Gambert. C'est juste une anecdote. Je voulais dire que notre laboratoire entre Nantes et Grenoble vient d'une formation qui a été créée en 1992, qui s'appelait déjà le DEA Ambiance Architecturales et Urbaines, et que cette formation avait deux options, une option acoustique à Grenoble, Grégoire s'en rappelle bien, et une option thermique et énergétique à Nantes, et l'option thermique et énergétique avait de nombreux cours en ventilation, en aérolique, comme on disait à l'époque, et ces cours étaient assurés par Jacques Gambert et Guy Barnot, donc c'était il y a 30 ans. Donc effectivement, ces personnes-là sont des facilitateurs puisqu'ils sont capables, tu l'as très bien expliqué, d'intervenir aussi bien auprès de praticiens et dans les projets dès le début que auprès de jeunes chercheurs et au niveau académique. Merci Jacques Gandemer.
J'ai essayé de le faire venir à l'école à nouveau, mais il ne voulait pas.
Bien, donc on va s'arrêter là. Merci Antoine.